je suis ce soir en compagnie de Tom B, Crate Diggers, comme on dit, collectionneur français et passionné de musique lusophone, qui est l'initiative de la compilation Lève Lève, qui sort le 31 janvier sur le label Bongo Joe Records. Et donc, Tom, comment est née l'idée de cette compilation? Comment t'as connu toutes ces musiques de Sao Tomé et Principe?
Alors, ce qui fait que je suis connu, c'est la musique brésilienne. C'est que je suis résident d'une soirée brésilienne à Paris qui s'appelle Avenida Brasil depuis 12 ans. Et mon goût pour les musiques lusophones par le Brésil m'ont amené à découvrir les musiques du Cap-Vert et surtout d'Angola, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Et les vendeurs de musique angolaise ont aussi, à Lisbonne notamment, et un petit peu en Hollande, ont aussi les disques de Sao Tomé, les quelques-uns, parce qu'il y en a très peu. Il doit y avoir en tout une vingtaine d'albums, une vingtaine de 45 tours et à peu près autant de cassettes qui sont sorties entre 74 et 89 à peu près. Après, c'est du CD. Et voilà, parmi ceux-là, j'ai découvert certains sons fort intéressants en tant que DJ. Et puis, à force de creuser le sillon, je me suis rendu compte qu'il y en avait tout un continent derrière et que c'était que le début de l'iceberg, tu vois.
Et donc là, tu as découvert tout un mouvement musical, on va dire, de ces deux îles. Qu'est-ce qui se passait là-bas, socialement parlant?
Donc l'histoire du pays, pour commencer, les deux îles sont pas très loin l'une de l'autre et pas très loin des côtes non plus, en haut du golfe de Guinée. Donc en gros, c'est deux volcans qui sont la fin de la chaîne de volcans qui passe au Cameroun. C'était une colonie portugaise, quand ils sont arrivés, il n'y avait rien, et ça leur a servi de base pour monter le premier commerce triangulaire entre les esclaves qui se faisaient vendre par le roi du Congo et ensuite d'Angola, et qui ensuite ils emmenaient dans les mines d'or à Accra, au Ghana, avec donc la fin du trajet, bien sûr, qui était à Lisbonne. Et ces îles sont devenues, donc de domination portugaise, elles sont devenues indépendantes en 75, sous un parti unique d'influence communiste, soutenu par les Chinois principalement, un peu les Cubains, un peu les Russes, jusqu'en 89, puis depuis c'est l'alternance démocratique, avec à peu près toujours la même oligarchie qui est à la tête, qui se refile les bébés depuis quelques années, quoi. On va dire ceux qui ont eu la chance de faire des études à Lisbonne, en résumé, ou dans des grandes universités. Donc on les familles pour derrière, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc l'indépendance a joué un petit peu dans cette scène musicale, mais parce que ça a permis d'arrêter la censure déjà. Or, beaucoup de textes sont des morceaux avec marqué à côté « ne pas transmettre »,« ne pas diffuser ». Donc il y a eu ça qui a joué pas mal. Après, en termes d'économie, je ne suis pas sûr que ce n'était pas plus simple avant, peut-être. Je ne me rends pas bien compte précisément, tu vois, du shift entre le colonialisme et l'indépendance. Mmh. Économiquement, ce que ça a pu donner pour les groupes qui faisaient le circuit des terrasses. Il y avait pas mal de bars, en fait, dans les différentes brossas. Et notamment, il y avait des bonnes fêtes le dimanche après-midi. Et donc ce circuit des bars, est-ce qu'il a eu plutôt tendance à diminuer, je pense, après? Et du coup, les groupes ont commencé à partir à l'étranger pour enregistrer.
Et toi, donc, tu as connu ça en travaillant autour des musiques brésiliennes, mais alors tu es allé sur place pour rassembler tous ces morceaux?
Oui. Mais les morceaux, je les ai pas rassemblés là-bas. Là-bas, il y a presque pas de disques. J'en ai eu quelques-uns, mais il y en a presque plus. Je les ai rencontrés plutôt à Lisbonne. Et une fois que j'ai eu acheté 2-3 qui m'ont convaincu, j'ai, avec ceux-là, pu convaincre Cyril de Bongo Joe Records à Genève de la qualité de la musique de cet endroit. Il s'avère qu'il avait lui-même un petit faible pour cet endroit parce qu'il avait, en tant qu'adolescent, était passé quelques semaines à Sao Tomé, en famille, je crois, d'ailleurs. Et voilà, ces morceaux l'ont convaincu, et donc on a décidé ensemble de voir si on pouvait creuser plus loin et ce qu'il y aurait à en faire. Et donc j'ai investi sur les originaux, ce qui veut dire pas mal d'argent, et à partir de là, on a pu travailler, ensuite aller nettoyer les crédits copyright, tu vois, trouver les ayants droit, aller payer ce qu'il fallait pour avoir le droit d'utiliser les morceaux, bien entendu. Mais non, ensuite, effectivement, comme tu disais, par contre, j'y suis allé depuis cette année deux fois sur place pour rencontrer surtout les vieux musiciens et les interviewer, qui nous racontent leur histoire et que je puisse retranscrire tout ça dans des notes de pochette.
Et alors, toute cette histoire-là que tu nous racontes sur l'histoire politique et sociale, c'est des choses que tu as découvert au fur et à mesure de ton travail sur cette compilation et sur la musique de Sao Tomé et Principe, où tu étais déjà amoureux de ces îles?
Non, non, pas du tout. Effectivement, j'ai vraiment découvert à cause de la musique. J'ai d'abord découvert la musique qui m'a amené à me documenter sur tout le reste. Mmh. Et j'ai, très honnêtement, j'ai maintenant de quoi largement écrire une thèse sur, la musique de là-bas, parce que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés plusieurs personnes qui m'aident à réunir des documents sur place et qui eux-mêmes ont de bons réseaux. Et donc j'ai à peu près en ma possession maintenant, ce qui n'est pas un but en soi de les posséder, mais il s'avère que c'est le cas, la plupart des ouvrages et des textes importants qui ont été écrits en musicologie, en ethnomusicologie, par des locaux et par les musiciens. La plupart des histoires des grands groupes et des grands musiciens racontées par eux-mêmes ou par leurs enfants, enfin tu vois, j'essaye de documenter au plus.
Mais ça, c'est un travail que tu imaginais en découvrant les musiques, d'aller aussi loin
fait.
Dans la recherche.
Ouais, que j'ai toujours fait,
toujours
de toute façon.
Ouais,
en partie, oui. Oui, tu vois, ça a commencé par de l'archivisme, mais ça revenait à ça. Adolescent, je suis tombé dans plein de musiques déjà. Ça a commencé par Clash, mais assez vite, c'est tombé dans funk, reggae, soul, tout ça. Et oui, j'ai toujours voulu savoir quel était le deuxième percussionniste qui jouait sur l'album de 76, tu vois, parce qu'il fait une magouille là qui me plaît bien. Et donc voilà, j'archivais déjà à l'époque en documentant tout, et puis avec le Brésil, forcément, notamment avec la partie religieuse, avec les candomblés, on s'est retrouvé assez vite à devoir se documenter aussi assez précisément sur le samba carioca aussi, parce qu'il y a toute une histoire, donc il y a un patrimoine à respecter. Là, il y a la même sensation, c'est-à-dire que c'est un patrimoine qui est multiforme, parce qu'il se présente sous forme de musique, sous forme de pièces théâtrales chantées, dansées aussi, de différentes formes d'ailleurs, et qui s'exprime à différents moments de l'année. Enfin, tu vois, c'est vraiment rentrer dans la culture locale pour voir ce qui l'anime et essayer de la rendre, de la démocratiser le plus fidèlement possible. Donc du mélange des musiques qui correspondent à ce style principal qu'on retrouve dans la compile, qui est la pusha. C'est, ouais. C'est le nom du style là-bas localement.
Et alors, qu'est-ce que ça rassemble, la pusha?
Alors, ça découle historiquement du samba socopé ou semba socopé. Ils appelaient ça là-bas à Sao Tomé, qui était une variante du semba angolais. Mmh. Donc, la base, c'est un semba angolais, donc un merengue, en fait, ouais. Parce que l'Angola, c'est du merengue. C'est même le nom d'un des labels là-bas. Donc il y a de l'angolais pour le côté merengue, il y a du Brésil, la fauchée, il y a des guitares qui viennent d'Afrique qu'on peut prendre au Kenya en partie dans le Benga ou dans le Soukous ensuite plus tard, et une influence clairement caribéenne antillaise de cadence ou de compas haïtien. qui ensuite, c'est ce qu'on a ensuite appelé le zouk quand ça s'est digitalisé au milieu des années 80. Mais qui avait une grosse influence, il y avait des gros allers-retours entre les artistes africains, dès les années 60 en fait, les artistes africains et antillais, par les musiques latines, notamment cubaines. Les orchestres africains jouaient de la salsa, les antillais aussi, et les uns jouaient du zouk, les autres jouaient du soukous, mais finalement se piquaient des morceaux dans les répertoires. Pedro Lima a changé de nom en milieu de carrière pour s'appeler Pepe Lima, en référence à Pepe Calais, qui était la star du soukous du moment. Voilà, donc il y a cette influence aussi qui vient des Antilles en plus. Alors il y a aussi pas mal de choses qui viennent du voodoo, hein, bien sûr, des rites de cérémonie. Et donc comme je te disais tout à l'heure, il y a une partie des traditions musicales de l'île qui sont en fait des pièces de théâtre musicales avec pas mal d'acteurs d'ailleurs et de rôles établis qui sont refaites tous les ans, les unes à Pâques, les autres pendant le carnaval principalement, et dont certains rythmes de transe sont très proches et l'un découle de l'autre et réciproquement en fait et évolue en parallèle. Donc finalement, c'est ça, il y a le côté africain du vaudou et du merengue et des guitares, et puis le côté de l'autre côté de l'Atlantique, par la lusophonie, le Brésil, et puis par les esclavagismes, finalement, les Antilles, quoi.
Et la poucha, c'est né dans les années 70 ou bien avant?
Oui, non, c'est ça, c'est fin 60, ouais. Ils continuent à appeler ça Semba Sokopé jusqu'à plus tard, hein, mais oui, on a utilisé le mot poucha à peu près à la fin des années 60 au départ, oui.
Saída da escola, curtição. Saída da missa, curtição. Saída da barra, curtição. Ida pra o cinema, curtição. Saída do cinema, curtição. Daquela praia, curtição. Daquele sítio, curtição. Daquele hotel, curtição. Daquela farra, curtição. Curtição, curtição. Curtição, curtição. Curtição, curtição. É só curtição. Oba! Olha só.
Et alors, localement, comment la compilation a-t-elle été reçue là-bas à Sao Tomé et Principe ?
Au niveau local, j'ai la chance d'être de mèche avec quelqu'un qui est mon fixeur sur place, si tu veux, mon partenaire de tous les jours, ouais. Qui est un médiateur culturel du ministère de la Culture, dont la mission est plutôt sur le côté danse, mais dont le papa faisait partie du Maracuja, qui est un des grands groupes des années 60. Et qui du coup connaît tous les musiciens de Lille, il est de la bonne génération si tu veux.
Oui.
Moyennant quoi, j'ai eu accès à tous assez facilement par lui et d'autre part par un autre garçon avec qui je m'entends très bien et que je fréquente beaucoup là-bas, qui est le dernier batteur de Pedro Lima en fait.
D'accord.
Qui du coup lui aussi a toutes les connexions. Et du coup, si tu veux, au niveau local, c'est assez émouvant parce que la plupart des gens de plus de 40 ans connaissent par cœur tous les artistes depuis leur enfance, savent dans quelle maison ils ont grandi, tu vois, et connaissent toutes les chansons par cœur. Mais c'est pas seulement ils se souviennent du nom de la chanson, c'est tu lui chantes un bout de parole, il finit la phrase, tu vois, et avec la mélodie et en te faisant les troisième voix, enfin ils l'ont tous dans le sang vraiment, et ça les émeut beaucoup qu'un petit blanc ait décidé de faire ça proprement. Et puis par rapport aux histoires de labels, tu vois, dans ce genre de métier, il y a une part d'équité à avoir. Et il faut essayer de garder une certaine éthique. Pour moi, c'était capital et absolument sine qua non, quoi. Rédhibitoire si c'était pas le cas. Et voilà, il s'avère que ça leur fait plaisir de voir que je vais jusqu'à inscrire moi-même en payant de ma poche les papis à la Société des auteurs, à la SACEM portugaise, si
ouais,
tu veux,
ça.
Pour qu'ils touchent des droits derrière, parce que jusque-là, ça n'avait pas été fait depuis les années 60 ou 80. Enfin, voilà, donc je suis plutôt respecté et bienvenu. Et du coup, j'ai la chance qu'ils me proposent plein de photos originales, par exemple, que j'ai pu numériser, voire certaines qu'ils m'ont offertes. Par contre, le projet lui-même n'est pas encore sur place, puisque
d'accord.
Ça sort que vendredi dans le monde entier, et je vais y retourner bientôt, là, et je vais apporter quelques boîtes de CD là-bas qui seront vendues au prix de fabrication. Mais de toute façon, on sait que dès qu'il y en aura un sur place, le lendemain, il sera en MP3 au marché.
Oui.
Voilà, c'est le principe. Mais le but est aussi celui-ci. Le but est aussi de pouvoir, bien sûr, non seulement de sauvegarder, mais de le populariser, ce patrimoine, oui.
Et donc, peut-être d'autres compilations à venir, volume 2, 3, voilà.
Oui, j'ai mis volume 1 parce que je savais que là, on en a mis 16. De toute façon, il en est sorti plus de 16. D'ailleurs, quand tu ouvres le disque, tu as à l'intérieur la liste des disques et cassettes qui sont sortis du pays. Il y en a pas mal quand même.
Mm-mm.
Mais donc, il reste de quoi faire un volume 2, au moins sur des choses qui sont déjà sorties. Et puis après, à voir. Mais cette année, on va ressortir des choses sur Pedro Lima, c'est sûr. Et puis encore une fois, ce n'est que le début de l'iceberg.
C'est
donc
ça.
Je vous laisse consulter régulièrement la page de Bongo Joe sur Bandcamp, sur laquelle vous trouverez des bonnes nouvelles de Sao Tomé.
Merci encore Tom, et à très bientôt. Bonne soirée à toutes et tous sur les ondes de Radio Campus. I'm not afraid.